Radio Prague, les informations.
Tensions ethniques, de nouvelles manifestations sont prévues ce week-end à Prague, dans le Nord. L'ancien président Václav Havel sort d'une longue convalescence et s'apprête à fêter ses 75 ans. Et en tennis, Petra Kvitova s'est inclinée en demi-finale du tournoi WTA de Tokyo. Pour la 6e semaine consécutive, de nouvelles manifestations sont prévues dimanche dans le nord de la Bohême, dans les villes de Rumburk et de Varnsdorf. Les forces de l'ordre seront mobilisées pour encadrer les habitants mécontents de la direction de la ville et de la criminalité dans leur commune. Quelques centaines de manifestants sont attendus, mais la police n'attend pas de présence massive de sympathisants d'extrême droite. La région de Chluknov est secouée depuis plus d'un mois par des conflits entre la population non-rom et la population rom locale. Et puis samedi, des manifestants anti-rom se rassembleront sur la place Palatsky à Prague et dans ses environs. Face à eux, des activistes et manifestants défileront pour soutenir la communauté rom incriminée. Ils manifesteront contre l'exclusion sociale et contre le racisme. L'ancien président et dramaturge Václav Havel sort d'une longue convalescence, a fait savoir sa secrétaire. Il passe son dernier jour dans sa maison de campagne de Hradeček ce vendredi et sera de retour à Prague dès samedi où il célébrera ses 75 ans qui tombent le 5 octobre. Parmi les invités, sans doute l'ancienne secrétaire d'État américaine Madeleine Albright, d'origine tchèque et amie de longue date, et qui doit venir à Prague à l'occasion de l'inauguration d'une nouvelle statue de Woodrow Wilson, événement auquel Václav Havel pourrait également participer. L'ancien dissident a passé une longue convalescence loin de la vie publique en raison de problèmes de santé importants. À l'occasion du concours de la Saint-Vincislas, c'est la bière Litovel Premium, brassée dans la ville de Litovel en Moravie, qui a été désignée la meilleure bière blonde tchèque de l'année. C'est la 11e édition de ce concours auquel ont participé 69 marques de bières différentes. 14,4% des lycéens tchèques sur un total de 99 000 bacheliers n'ont pas eu leur baccalauréat cette année. Tels sont les chiffres qui ont été présentés par le ministère de l'Éducation. 9,5% d'entre eux exactement été recalés, près de 5% ne sont pas venus passer les épreuves. Et puis à noter que le Vatican a vivement protesté contre l'utilisation des locaux de son ambassade à Prague où un film érotique a été tourné. Toute l'affaire est liée à Jaroslav Bartak, un médecin tchèque de renom récemment arrêté pour viol et qui aurait organisé et participé en tant qu'acteur au tournage de ce film. Jaroslav Bartak est déjà accusé d'abus sexuels contre une douzaine de ses assistantes. Il aurait organisé personnellement l'accès des locaux à l'équipe du tournage alors qu'il y avait ses entrées en tant que médecin soignant. On finit par un mot de sport. Petra Kvitova, tête de série numéro 2, a dû s'incliner en demi-finale contre Vera Zvonareva, 4e mondiale. Petra Kvitova a semblé assez affectée par sa défaite face à la Russe 7-6-6-0, alors même qu'elle menait 5-1 dans le premier set. « Je ne sais pas ce qui s'est passé », a-t-elle affirmé en conférence de presse. « Si je le savais, je vous le dirais. Ce premier set m'était promis, c'est sûr. » On finit par un mot de météo. Il fera très beau samedi, jour de fête des Igor, avec des maximales comprises entre 22 et 26 degrés. L'été indien devrait se poursuivre au moins jusqu'en milieu de semaine prochaine. C'est la fin de ce bulletin d'information. Tout de suite, la suite du programme.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour et bienvenue à l'écoute pour la suite du programme en français de Radio Prague. Merci à Anna Kubišta pour le bulletin d'information. Aujourd'hui, au sommaire, il y a d'abord un jumelage franco-tchèque entre deux villes des régions du nord de la France et de la Bohême. Et puis vous entendrez dans un instant le reporter photographe français Patrick Chauvel qui était cette semaine à Prague pour présenter son livre et la parution de la version tchèque de ce livre appelé Sky. Et puis dans la deuxième partie de ce programme en français, vous retrouverez Alena Gebertova pour le miroir de la société à propos de ce qu'on peut lire en ce moment dans la presse tchèque. Voilà pour le programme, très bonne écoute. Une charte de jumelage entre les villes d'Armentières en France et Litoměřice en Bohême sera signée dans l'ancienne cité de la Toile en présence, entre autres, de l'ambassadrice de République tchèque en France, Marie Chatardová. À cette occasion, le président de l'association Armentières Litoměřice Europe Internationale, Xavier Torres, a répondu à quelques questions de Guillaume Narguet. Xavier Torres a d'abord expliqué à quand remontait cette relation d'amitié entre les villes d'Armentières et de Litoměřice.
Depuis de très nombreuses années, officiellement, La première convention qui a été signée entre le préfet de Litoměřice et Armentières remonte à 1995. Alors, les relations entre les deux villes sont nées de la volonté d'un théologien armentirois, un professeur de philosophie, prêtre, qui était très intéressé par ce qui se passait en République tchèque, de l'autre côté du mur, hein, c'était à l'époque. Il a pris contact avec d'autres prêtres sur la République tchèque, et l'un d'entre eux, celui qui était rentré en contact avec lui, si je me souviens bien, suite à une mutation, est arrivé à Litoměřice, et c'est comme ça que, lors de son premier voyage, c'était à Litoměřice.
Et depuis, quel type d'échange existe entre les deux villes ?
Très nombreux échanges ont eu lieu, des chorales tchèques sont venues à Armentières, des jeunes étudiants, accompagnés de leurs professeurs de français, ont fait le voyage à Armentières. De nombreux Français sont partis à Armentières. Je crois qu'on compte plus de 3000 Français qui sont passés à Litoměřice depuis cette date. Nous avons eu, entre autres, les jeunes d'un centre social qui ont fait régulièrement, plusieurs années de suite, le voyage là-bas. Ils ont pu profiter de vacances sur Litoměřice et environ. Bon, il y a eu un club de foot qui est venu faire un tournoi à Litoměřice. Et l'appareil a été rendu, une équipe de foot de jeunes de 14 ans, est venu à Armentières pour jouer.
Alors, ce samedi sera signée une charte de jumelage entre les deux villes. Alors, quelles sont les manifestations prévues autour de cette signature ? J'ai vu, par exemple, sur le site dont vous êtes le président, l'association ALEI, que les restaurants scolaires d'Armentières proposaient cette semaine un menu tchèque. Alors, est-ce bien vrai ?
Oui, tout à fait. Et entre autres, demain midi, la délégation, donc la municipalité de Litoměřice, viendront à Armentières et ils vont partager justement dans l'une des cantines le repas des enfants qui est basé sur des recettes tchèques, entre autres les fameuses galettes de pommes de terre. L'ambassade de République tchèque à Paris nous a prêté des expositions qui sont installés dans l'hôtel de ville et la médiathèque d'Armentières. Ce sont des grands panneaux qui montrent la République tchèque, l'économie, l'histoire, la géographie.
Et pour votre association, s'agit-il d'un aboutissement en quelque sorte ? Alors on va rappeler que ALEI, ça veut dire Armentières Litoměřice, Europe internationale. Alors est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur votre association et donc si cette signature du partenariat ou du jumelage est pour vous en quelque sorte un aboutissement ?
Alors nous, oui, tout à fait, c'est l'aboutissement de près de 20 ans d'association. Aujourd'hui, nous sommes très heureux que ça aboutisse à enfin une officialisation des relations entre les deux villes. Et nous, de notre côté, étant donné que ce jumelage maintenant existe, que la ville s'est dotée d'une association des amis des jumelages qui va prendre en charge vraiment les relations avec les villes jumelles, nous, notre association s'ouvre vers encore plus largement sur la République tchèque, donc évidemment les relations privilégiées avec Litoměřice, puisque ça fait partie de notre intitulé, mais par exemple, depuis l'année dernière, nous avons organisé, sur l'idée de jeunes tchèques qui vivent dans la région, nous avons proposé de fêter Saint-Nicolas, selon la tradition tchèque, à Armentières. Et nous allons lancer d'autres fêtes de ce genre, comme essayer de se faire rencontrer tous les jeunes tchèques de la région. Ils sont assez nombreux, il y en a plus d'une vingtaine installés, mariés avec des enfants. Et ils veulent faire partager à leurs enfants les traditions tchèques que les enfants ne voient pas forcément vivant en France.
Une dernière question, la Bohème, enfin Litoměřice, qui est une ville de Bohème, une région de la bière, Armentières, qui est du nord de la France, c'est aussi une région de la bière. Donc cette bière va-t-elle couler à flot samedi, puisque ce sera un jour de fête avec cette signature ?
Alors samedi, certainement que la bière tchèque coulera à flot, parce que nous avons la possibilité de nous approvisionner, bien sûr, en bière tchèque. Armentières, alors, ancienne cité de la bière, n'en fabrique plus du tout, mais l'histoire brassicole Armentières est encore bien présente. Donc oui, nous allons certainement avoir de la bière au buffet, et je sais que les Tchèques aussi apprécient le champagne français, donc il y aura aussi du champagne.
C'était Xavier Torrezo, téléphone avec Guillaume Narguet. On passe à la suite de ces faits et événements avec le reporter, photographe de guerre, écrivain et documentariste français Patrick Chauvel, qui était cette semaine à Prague. Comme chaque année, il a animé un atelier de photoreportage à la Faculté des sciences sociales et il a également présenté au lecteur tchèque son livre Sky, qui vient de paraître en tchèque aux élections Garamond. Il y a 4 mois, Patrick Chauvel est revenu de Libye, où il a filmé et photographié les combattants contre le régime du colonel Kadhafi. Il a parlé au micro de Magdalena Hrozinkova de la particularité de ce conflit.
La particularité, c'est que ce sont des civils en armes qui se sont soulevés contre un pouvoir. Donc ça, c'est assez rare de voir ça. Vous avez des boulangers, des coiffeurs, des vieux, des jeunes, des très jeunes, des libraires, des pompistes, c'est incroyable. Des gros, des minces, des gens fatigués, des gens qui ne voient pas très clair avec des lunettes, des étudiants. Tout le monde se bat contre une armée professionnelle qui est celle de Kadhafi. Donc c'est très émouvant, ils sont très courageux et très désorganisés, donc c'est très dangereux parce qu'ils ne savent pas se battre. Ils ont un courage incroyable, mais ils sont très émotifs et il est possible de reculer de 60 km dans la journée et d'avancer 100 km le lendemain et de re-reculer de 60 km dans l'après-midi. C'est très très curieux comme conflit. Mais c'est en même temps fantastique et fascinant de participer à une vraie révolution, quoi. Maintenant on va voir ce que ça va donner à la fin. Mais c'est la première fois sur un reportage où il est évident que le témoignage de tous les journalistes, y compris les petits films qu'ont fait les Libyens, a changé la situation puisque ça a provoqué l'intervention de l'OTAN. Donc là, pour une fois, on est vraiment certain d'avoir servi à quelque chose avec nos images. Parce que l'OTAN est intervenu à 3 heures près, les chars étaient dans les faubourgs de Benghazi. Ils auraient tué entre 20 et 50 000 personnes en une après-midi. Donc ça s'est vraiment joué à quelques heures près.
Et vous étiez aussi dans les autres pays touchés par ce mouvement révolutionnaire?
Oui, la Tunisie et l'Égypte, oui. Donc qui étaient les premiers. Bah, c'était pareil, sauf qu'il y a eu moins de combats. En Tunisie, c'était la police contre la population. Il y a eu des tirs, il y a eu des morts, mais ça ressemblait plus à une manifestation gigantesque avec des petits rabats réels, mais c'était pas l'aviation et les chars contre la population quand même. Et puis en Égypte, l'armée n'a pas bougé, elle a observé la situation entre la police et la population, et une fois qu'elle a compris que la population allait gagner, elle a choisi son camp. Mmh. Donc ils ont été très malins, les militaires égyptiens. Et donc ils ont réussi à, sans participer à la révolution, à rester amis avec le peuple et à donc garder le pouvoir d'une certaine manière. Ils sont toujours là. Ils ont juste changé les chefs. Mais donc c'est une révolution, mais la force militaire est là. Elle surveille.
Et quels sont vos projets maintenant pour les prochains mois et
j'ai la sécurité de l'emploi, là. Il y a des guerres partout. Donc je pense que je vais essayer de passer en Syrie parce que ça fait quand même un moment que les Syriens ont le bras tendu avec leur téléphone portable pour faire leurs propres images. On dirait des gens qui appellent au secours, qui sont en train de se noyer. Il serait temps qu'on vienne les aider à faire des photos à leur place. Parce que malheureusement, les images qu'ils font, comme on dit en termes journalistiques, sont non vérifiables et non indépendantes. Donc, bien sûr qu'elles sont vraies, mais c'est à nous de faire les images maintenant, de prendre le relais. Mais c'est très difficile de passer. La frontière est fermée.
Patrick Chauvel répondait aux questions de Magda Hrozinkova. On passe maintenant à la suite du programme en français de Radio Prague. Comme toutes les 2 semaines, c'est avec la rubrique Le miroir de la société. Et aujourd'hui, un thème, la corruption, qui semble avoir en République tchèque des dimensions alarmantes. Un fléau qui préoccupe tant les représentants politiques que l'opinion publique. La lutte contre la corruption est devenue un des buts et des slogans majeurs de l'actuel gouvernement de centre-droit de Petr Nečas. La presse, quant à elle, se penche régulièrement sur les différentes facettes de la corruption, sur les affaires ou les cas suspects qui défraient certes la chronique, mais demeurent rarement élucidés. Récemment, beaucoup d'encre a coulé au sujet de l'entretien accordé par le milliardaire Andrei Babiš au quotidien économique Hospodarske Noviny, entretien dans lequel il déclare que la corruption dans le pays a dépassé la limite du tolérable. Alena Gebertova l'a lu pour vous et nous avons également suivi les réactions que cet entretien a provoquées. «
miroir de la société à la lumière de la presse.
C'est probablement la première fois qu'une critique virulente portant sur le niveau de la corruption est issue d'humilier des nouveaux Tchèques, propriétaires du groupe Agrofert réunissant 200 sociétés dans les secteurs de la chimie, de l'agriculture, de l'alimentation, de l'industrie des constructions mécaniques et du bois. L'ancien communiste Andrei Babiš est aujourd'hui un des businessmen les plus riches et les mieux établis dans le pays. Dans l'entretien qu'il a récemment accordé au quotidien Hospodarské noviny, Andrei Babiš caractérise la Tchéquie comme une sorte de Palerme en proie à la mafia.
Il prétend ne pas être le seul homme d'affaires tchèque à dénoncer cette situation et le système dans lequel seraient impliqués, selon lui, la police et la justice. Ceci dit, il avoue ne pas avoir de preuves ou de données concrètes pour étayer ses propos concernant les cas de corruption, les pots de vin ou les fraudes. Andrei Babiš se défend pourtant en disant
« Il y a beaucoup d'autres entrepreneurs tchèques qui rencontrent les mêmes acteurs sur les scènes économiques et politiques et qui ont les mêmes informations que moi. Bref, ce que je dis, moi, tout le monde le sait généralement. Tout le monde en parle, mais en catimini. »
Andrei Babiš considère que ces informations sont aussi pertinentes que celles publiées par le serveur Wikileaks qui se réfère aux dépêches de diplomates américains à l'adresse de Washington, selon lesquelles la Tchéquie serait le pays le plus corrompu en Europe centrale.
Il dénonce en outre le fait qu'il n'y ait pas dans le pays d'autorité morale qui s'oppose à la corruption, en comparant ce phénomène tel qu'il existe dans les pays occidentaux et en République tchèque. Andrei Babiš dit
« Je pense qu'à l'étranger, la police, les juges et les procureurs ne sont pas impliqués dans la corruption comme c'est le cas chez nous. En plus, lorsque les journalistes y découvrent des indices de corruption, le politicien mis en cause doit quitter la vie politique, même si des preuves éloquentes ne sont pas soumises. Chez nous, l'agence d'information de sécurité, BIS, peut établir des rapports sur l'imbrication du business, de la politique et de la justice, et pourtant, rien ne se passe. »
Un des Tchèques les plus riches estime que depuis les années 1990 jusqu'à une époque récente, l'évolution de la corruption ne dépassait pas les limites normales. Le tournant décisif serait survenu en 2006, avec l'investiture de Pavel Bém au poste de maire de Prague et avec celle du gouvernement de Mirek Topolánek.
Refusant cependant la théorie selon laquelle la grande corruption se serait imposée avec l'ODS, le Parti civique démocrate, Andrei Babiš estime que le malheur est venu avec des gens très concrets. Il s'agit au total d'une vingtaine de personnes qui seraient, d'après lui, responsables de cette dévastation, parmi lesquelles Marek Dalík, lobbyiste proche du Premier ministre de l'époque Mirek Topolánek, et ce Marek Dalík occuperait une place particulièrement importante.
Lorsqu'on reçoit des informations sur une affaire de corruption, est-il dangereux d'en parler? À cette question posée par le journal, l'entrepreneur Babiš répond.
Effectivement, il n'est pas facile de parler ouvertement de la corruption, même dans les journaux. On peut s'attendre à un châtiment, étant donné qu'en Tchéquie, on voit parfois stopper sur une commande l'enquête d'une cause, il est presque sûr que l'on peut aussi initier une cause sur commande. C'est ce à quoi peut s'attendre celui qui critique ouvertement le système. Je ne veux pas dire que tout le système judiciaire est corrompu, mais il suffit de lire les journaux pour réaliser que toute une série de cas identiques existent.
En conclusion, Andrei Babiš déclare qu'il y a dans le pays beaucoup d'initiatives qui s'investissent dans la lutte contre la corruption et qu'il serait bon de créer un nouveau forum civique afin de les gérer. Les déclarations du milliardaire Babiš pour le quotidien Hospodarské noviny ont semé la polémique. D'un côté, elles ont été accueillies avec un grand intérêt par une partie du public, tandis que les commentaires dans les médias y ont souvent réagi avec réticence. On nous citera que Martin Komárek du quotidien Mladá Fronta Dnes, selon qui cette confession n'a aucune valeur. D'abord parce qu'elle est dénuée de toute preuve et aussi parce que son auteur lui-même aurait été impliqué dans des transactions suspectes.
D'un autre côté, écrit-il plus loin, tout en mettant en doute l'honnêteté d'Andrei Babiš, « Je ne veux pas mettre en doute le bien fondé de ce qu'il dit. » En effet, la corruption et le clientélisme parmi les grands businessmen et les hommes politiques à tous les niveaux de l'échelon sont un fait indiscutable. C'est ce que confirment les témoignages indépendants dont j'ai pu faire moi-même connaissance. Et de conclure...
Mais il n'est pas vrai que l'essor de la corruption aurait commencé dès 2006. Ce jugement fait partie de l'arsenal politique des critiques de la droite. La corruption existe dans notre pays depuis les années 1990. Elle est très grande, il est vrai. Moins grande quand même qu'on ne le dit.
Quand il s'agit d'un grand entrepreneur, une certaine suspicion est certes justifiée car celui-ci ne pouvait pas demeurer pendant toutes les années écoulées hors du système, mais il faut se demander si l'on peut rejeter les arguments de tous les businessmen qui affirment en avoir marre.
C'est ce qu'écrit sur le serveur actuania.cz le journaliste et politologue Jiří Pehe qui estime que l'épuration doit émerger justement du milieu des entrepreneurs, car c'est lui qui réalisera tôt ou tard que la corruption systématique ne profite à personne, sauf à une poignée de parasites dans les domaines de la politique et des affaires.
Dans son analyse, Jiří Pehe constate qu'il existe dans les pays plusieurs initiatives civiques qui proposent leurs propres recettes, dont celle qui s'appelle le public contre la corruption, la fondation pour la lutte contre la corruption, ou quelques initiatives inspirées par les plaintes et les projets soumis par les chambres de commerce étrangères présentes en Tchéquie. Jiří Pehe écrit à leur sujet.
Les possibilités de ces initiatives sont cependant limitées. Leurs propositions et leurs idées ne servent à rien tant qu'un parti politique ne s'y identifie pas à son tour. Le problème, c'est aussi qu'il existe entre ces différents groupes une certaine rivalité. Il appelle donc Transparency International à essayer de coordonner leurs activités.
Et en revenant à la fin à André Babiš, sur lequel le feu a été concentré ces derniers jours suite à ses déclarations pour la presse, Jiří Pehe écrit...
Il se peut que ces motifs aient été personnels. Il serait néanmoins dommage de ne pas prendre son acte comme un appel SOS corruption.
Et c'est ainsi que se termine le programme en français de Radio Prague pour aujourd'hui. Merci à tous et à toutes de votre fidélité et de votre attention. À très bientôt sur nos ondes.